On repart ? Vous allez vous diriger vers les grilles et prendre à droite dans l'allée qui les borde jusqu'aux arbres qui ont de drôles de troncs et dont les pieds sont entourés de débris d'écorce.
On n'a pas attendu le XVIe siècle et les explorations pour mener ce grand inventaire du vivant. 4 siècles avant notre ère déjà, le grec Théophraste, élève d'Aristote, s'était lancé dans une étude méthodique du vivant et des phénomènes naturels. On lui doit 2 œuvres majeures, sur l'histoire des plantes et sur les causes des plantes. Plus tard, au 1er siècle, toujours en Grèce, le médecin et botaniste Dioscoride publie une encyclopédie pharmaceutique connue sous le nom de De Materia Medica, ouvrage de référence lui aussi, qui, sans viser l'exhaustivité, traite des remèdes naturels d'origine végétale, animale et minérale et décrit précisément les plantes en question. Tiges, feuilles, etc. À la même époque, Caius Plinius Secundus, plus connu sous le nom de Pline l'Ancien, s'attelle à un monumental ouvrage en 37 volumes qui veut inventorier l'ensemble du vivant, l'histoire naturelle, Historia Naturalis. Un travail que Pline débute dans sa jeunesse et qu'il complétera jusqu'à sa mort. Si dans toute cette matière accumulée se cachent des hypothèses fantaisistes qui seront démenties dans les siècles qui suivent, il n'en reste pas moins que ces ouvrages fourmillent d'un savoir colossal qui compte. Largement traduits et en circulation à travers l'Europe, ils sont à la Renaissance des références pour les botanistes qui cherchent à identifier les plantes contenues dans ces livres et à les compléter et forment ainsi le socle des connaissances à venir.
Vous êtes en face de ces arbres étranges qui semblent tout droit sortis de contes de fées ? Arrêtez-vous là une seconde. Les enfants y jouent depuis des générations, à tel point que certaines branches sont totalement polies. Ce sont des calocèdres, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas des cèdres. Ils font partie du genre cyprès, de la famille des Cupressaceae. Ces arbres sont odoriférants et inflammables, si bien que certaines tribus indiennes du Canada utilisaient leurs branches pour faire des huttes de sudation et purifier les maisons. Ils ont été introduits en Europe dans le midi de la France, sur des terrains calcaires, pour repeupler des zones de sécheresse, car ils sont capables d'utiliser la rosée pour s'hydrater.
Allez, reprenons jusqu'au banc suivant, juste après la porte en briquette sur votre gauche, cette ancienne porte de Capitole qu'on a réédifiée ici en 1886. Le banc se trouve en face de l'arbre bizarre avec tous ses piquants. Vous vous y installerez. Il faut admettre que la tâche des botanistes n'est pas simple, car le vivant ne se laisse pas facilement saisir. Le travail de documentation et de description est long et fastidieux. Le langage botanique, très technique. Pour décrire avec précision, il faut savoir manier des termes comme lancéolé, pétiole, dioïque, parthénocarpique ou encore monocotylédone. Or, tous ceux qui partent en exploration hors d'Europe ne sont pas botanistes. Donc le vocabulaire leur manque parfois pour rendre compte de ce qu'ils ont sous les yeux. Et puis il arrive qu'aucun mot n'existe encore pour nommer des particularités morphologiques. Alors on dessine ou on prélève un plan. Mais quand tout ça n'est pas possible, car dessiner est aussi un savoir-faire, eh bien les botanistes font comme vous et moi. Ils ramènent l'inconnu au connu. Ils font des analogies. Et pour ce faire, on peut procéder de 2 manières. On peut utiliser le nom d'une plante connue pour décrire une autre inconnue. Le piment, par exemple, plante américaine et qui là-bas porte plusieurs noms, dont ají ou chile. Eh bien, il sera renommé piment par les Européens car il est piquant, comme le poivre, pimienta. Mais le cas de figure le plus fréquent est de composer avec différentes plantes déjà connues. D'autant plus qu'il faut savoir comment rendre compte d'une saveur. L'ananas est par exemple ramené pour son goût à la framboise ou au melon. Pour sa morphologie, on le compare à la pomme de pin, d'où son nom anglais, pineapple.
En face de nous se trouve l'Araucaria du Chili, Araucaria araucaria, un arbre singulier. À observer ses piquants, on imagine bien pourquoi il s'appelle aussi désespoir des singes. Sauf que chez lui, des singes, il n'y en a pas. Les Anglais qui l'ont surnommé ainsi n'avaient sans doute pas arpenté le pays. C'est un Écossais, Archibald Menzies, qui semble avoir rapporté les premiers pieds en Angleterre, que l'on planta au jardin de Kew. Au 19e, en Europe, on se passionne pour l'araucaria. Il est prisé des jardins d'ornement. Alors que pour les tribus mapuches du Chili, cet arbre est source de nourriture. Ses graines, les pignons, pehuen en mapuche, sont notamment utilisées pour faire de la farine et de l'alcool. Elles résistent au feu grâce à leurs écorces épaisses, ce qui fait que les éruptions de la cordillère ne les ont pas décimées. D'autant que l'arbre produit des graines une année, puis s'arrête, pour déstabiliser les prédateurs qui pensaient pourtant avoir trouvé là une source régulière de nourriture. Malin. À droite de l'araucaria, un peu en retrait, vous pouvez observer un catalpa. L'arbre dont le tronc forme un bourrelet avant de déployer largement ses branches, sur lesquels pendent une partie de l'année de longues gousses. Pour nommer cet arbre originaire d'Amérique du Nord, les botanistes ont cette fois conservé le nom Cherokee qui les définissait et qui signifie haricot, en référence à la forme de son fruit.
Allez, on y va. Continuons sur le même chemin. On prendra la prochaine à droite. La botanique n'est pas qu'une affaire d'exploration dans le fin fond du bayou à la recherche de plantes rares. C'est aussi une histoire de cabinets et de grimoires, d'herbiers et de non-barbares. Comme le disait le romancier et journaliste Alphonse Carr, la botanique est aussi l'art de sécher les plantes entre des feuilles de papier et de les injurier en grec et en latin. Surtout en latin d'ailleurs. Mais avant de nommer, il faut observer. Les herbiers permettent de voir les différentes parties et stades de développement de la plante tout au long de l'année. Les jardins, eux, rendent possible l'observation sur pied et l'évolution de la plante au fil des saisons et des ans. Cette observation est nécessaire à sa description méthodique, qui, elle, servira à l'établissement de grands groupes dans lesquels réunir les essences qui présentent des similitudes.
Pardon, je vous coupe, mais regardez ces deux gros platanes devant vous. Ils sont là depuis le début du jardin. Allez, on tourne à droite.
Après les avoir rassemblés par goût, par usage, par vertu, donc de manière un peu empirique, on se met à faire les choses avec plus de rigueur, car on voudrait que ce soit valable de manière universelle. Plusieurs savants tentent ainsi d'établir des systèmes de classification, posant progressivement les bases de celui que nous connaissons aujourd'hui, à savoir le système linnéen. Pierre Magnol introduit le mot « famille », puis Joseph Piton de Tournefort, la notion de genre et d'espèce, le tout en latin, la langue commune des botanistes.
On parle de Magnol, retournez-vous légèrement sur la droite, l'arbre aux feuilles brillantes, et peut-être selon la saison aux grandes fleurs ivoires. C'est un superbe Magnolia grandiflora.
Allez, continuons. Sur les étiquettes disséminées dans ce jardin, vous ne manquerez pas de voir écrit en italique, en dessous du nom usuel, Magnolia à grande fleur, deux mots latins qui composent son nom scientifique. Le premier, portant majuscule, désigne le genre Magnolia. Le second est là pour préciser, grandiflora.
Dépassons les érables en direction du café chez César, derrière lequel on prendra à gauche pour nous diriger vers la fontaine Wallace.
On appelle cette manière de classer le binôme linnéen, d'après le nom de Carl von Linné, naturaliste suédois qui au XVIIIe siècle a généralisé ce système de nomenclature. La classification linnéenne fait fureur. Elle s'appuie sur les parties visibles de la plante et ordonne notamment en fonction du nombre d'étamines et de pistils, les organes génitaux. Vers la fin du XVIIIe siècle, la complexité mise à jour dans le fonctionnement des plantes amène de nombreux scientifiques, dont Linné lui-même, à réfléchir une meilleure méthode qui ne prenne pas seulement en compte les caractéristiques physiques des plantes, mais aussi leur fonctionnement. Comme toutes les sciences, la botanique est un jeu de perpétuelle remise en question. Toutes ces manières de classer le vivant sont alors élaborées en Europe. Pour autant, des systèmes similaires existaient ailleurs. On sait notamment que les langues nahuatl, parlées dans ce qui est aujourd'hui le Mexique, nomment les végétaux selon une logique taxonomique singulière. C'est ce que va remarquer Francisco Hernandez au XVIe siècle. Ce médecin est chargé par Philippe II de faire l'inventaire des plantes médicinales utilisées en Amérique. Au cours des 7 ans qu'il passera dans la partie centrale de l'actuel Mexique, il interrogera de nombreuses personnes, d'abord avec l'aide d'interprètes, puis en apprenant le nahuatl.
Vous traverserez l'allée centrale et contournerez le café en direction de la cascade. Puis vous prendrez le chemin à droite pour revenir vers l'allée centrale.
Ce que constate Hernandez avec le nahuatl, c'est que dans un certain nombre de cas, les mots pour désigner les plantes en nahuatl sont des mots à valeur descriptive. C'est-à-dire qu'ils identifient de quel type de plante il s'agit et ils identifient aussi qu'est-ce qui spécifie cette plante par rapport à une autre qui serait proche. On voit bien que la logique qu'il y a derrière, c'est une logique qui ressemble à ce qui commence à se développer à l'époque, enfin vraiment à la fin du XVIe siècle en Europe, qui est la capacité de classer les plantes en divers groupes qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et le noyau central de cette logique, c'est le rapport entre le genre et l'espèce.
Prenez à droite vers l'allée centrale.
Alors il y a quelque chose qui ressemble à ça dans le nahuatl, et ça fascine Hernandez parce que c'est beaucoup plus puissant que les formes de classification qui sont utilisées par la botanique de son époque en Europe. Mais ce qui est frappant pour Hernandez, c'est que le nom d'une plante dit immédiatement à quel genre elle se réfère, à quel groupe elle se réfère, et ce qui spécifie cette plante par rapport aux autres. Et ça, c'est très très puissant, c'est tellement puissant que Hernandez considère que ce serait stupide de renommer les plantes en latin ou en... parce que il y a déjà quelque chose qui fonctionne bien. Donc l'histoire naturelle de Nouvelle-Espagne qu'il rédige, dans laquelle il va travailler à la fois sur les plantes, les animaux, les minéraux et les oiseaux du Mexique. Pour la partie concernant les plantes, il va choisir de faire un classement alphabétique. Et ce que cache ce classement alphabétique, c'est qu'en fait, il reprend la taxonomie nahuatl.
Vous allez traverser l'allée centrale et prendre celle qui part en face, là, à droite du banc.
Au départ de l'allée, à droite, en face du banc. Vous avez reconnu l'arbuste avec ses petits rameaux réguliers, un peu plumeaux ? Sans ses boules de fleurs jaunes duveteuses, c'est pas évident. Mais c'est bien un mimosa, plus scientifiquement appelé Acacia dealbata. Oui, puisqu'on parle de classement taxonomique, sachez que ce que nous appelons mimosa est en fait un membre du genre Acacia. Et ce qu'on appelle souvent Acacia est en réalité un robinier faux Acacia, membre du genre Robinia, tandis que le genre Mimosa, lui, regroupe ce que nous appelons les sensitives. Vous savez, ces petites plantes dont les feuilles se rétractent quand on les touche. Ah, la classification, c'est pas si simple.
Vous allez dépasser la caravane à gauche et vous asseoir sur le banc qui se trouve juste après, sur votre gauche. Dans la série des faux amis, regardez le long de l'allée. Vous voyez ces petits arbrisseaux piquants qui, selon la saison, arborent de petites baies rouges, là, en bordure des massifs ? On les appelle fragons faux ou, petits ou. Épines de rat, buis piquant, fragonette, gringon, vergandier et j'en passe. Comme le hou, ses feuilles sont assez dures et munies d'épines qui grattent. Attendez, ses feuilles ? Non, pas tout à fait. En réalité, ce que l'on pourrait prendre pour tel, et qui d'ailleurs assure aussi la photosynthèse et la respiration de la plante, est en fait un rameau, que l'on appelle un cladode. Ce qui fait qu'à première vue, en hiver et au printemps, on peut être étonné de voir apparaître des fleurs sur ce qui semble bien être des feuilles. Vous êtes bel et bien en face d'une branche. Aplatie et plutôt petite, mais bien une branche.
Avant de pouvoir observer les plantes, il a fallu les acheminer. Or, on sait que par définition, même si c'est un peu discuté, les plantes ne sont pas mobiles. Pourtant, certaines ont bel et bien voyagé.
Vous jetterez un œil au magnolia qui se trouve en face à droite, à l'angle de l'esplanade, près de la poubelle métallique. On va plonger dans le passé.
Nous sommes en 1711, dans le port de Paimbœuf, en aval de Nantes. Les quais grouillent d'une agitation particulière. On décharge les caisses du grand voilier le Saint-Michel qui arrive tout juste de Louisiane. Un homme surveille le déroulé des opérations du coin de l'œil. C'est René d'Arquistade, futur maire de Nantes, pour le moment riche commerçant et armateur du navire, mais surtout botaniste amateur. Entre les nombreuses caisses entassées sur le quai, d'Arquistade remarque plusieurs arbustes qui ont voyagé sur le pont et survécu au soleil et aux embruns. L'un d'eux attire particulièrement son attention. Port noble, belle feuille vernissée d'un vert profond. Il le récupère et le fait installer dans l'orangerie de sa propriété de la Maillardière. Las, pendant près de 20 ans, la plante végète et ne fleurit pas. D'Arquistade décide donc de s'en débarrasser. Mais sa femme, ou la femme de son jardinier, selon les versions, récupère l'arbuste, le fait replanter en pleine terre, non loin d'une dépendance, ou du pigeonnier, ou du pied d'un mur. Et surprise, il s'épanouit et produit enfin de grandes fleurs blanches et odorantes. Cet arbre, qui s'éteindra en 1848, est identifié en 1764 par le botaniste François Bonamy comme étant un Magnolia grandiflora, conforme à la description qu'en avait faite en 1703 le père Jacques Plumier, botaniste de renom lors d'une expédition en Louisiane. En 1740, quelques années après l'arrivée de ce premier spécimen, qui n'a donc pas encore été identifié comme tel, un deuxième arbuste arrive dans la région nantaise. Celui-ci a été rapporté par Roland-Michel Barin de la Galissonnière, capitaine de vaisseau et lui aussi botaniste amateur, au retour d'une mission en Nouvelle-France, dans l'actuel Canada. Barin s'est conformé dès ses premiers embarquements à l'ordonnance adressée en 1724 par le ministre de la Marine, Maurepas, aux capitaines de navires, qui leur enjoint de rapporter plantes et semences de leur voyage lointain, tant pour les jardins botaniques qui se développent dans les ports que pour le potager du roi à Versailles. Barin crée chez lui, à la Galissonnière, un véritable arboretum où il réunit les espèces rapportées de ses voyages. Plus vigoureux que son aîné, ce Magnolia grandiflora, car c'en est un, le dépasse rapidement de réputation.
On se remet en route ? Prenez l'allée qui part sur votre gauche, en direction du quai des Savoirs.
On a des traces de voyages de végétaux qui datent des civilisations mésopotamiennes. Mais à partir de l'époque dite moderne, les voyages se font plus nombreux et plus organisés. Au XVIIIe siècle, les plantes ont emprunté les routes du commerce triangulaire, s'invitant dans les cales et sur les ponts. Le coton et la canne à sucre étaient chargés à bord des bateaux aux Amériques, après qu'on les ait vidés des esclaves venus d'Afrique pour retourner en Europe. Mais elles reviennent aussi dans les bateaux des explorateurs, tels que Cook, La Pérouse, Bougainville.
Allez donc vous glisser un instant dans le bosquet d'ives sur votre gauche, en passant devant le noisetier de Byzance, signalé par une pancarte, et la petite colonne.
Qu'il soit par la mer ou par voie terrestre, on sait les trajets longs, incertains, et les conditions peu favorables aux plants, comme aux graines, qui peuvent germer ou moisir. Certains voyages durent des mois, voire des années. Il arrive qu'on traverse différentes zones climatiques, et je ne parle pas des attaques de pirates et des naufrages. La survie des plantes est une vraie question, car les enjeux sont de taille.
Alors oui, c'est un souci des directeurs de jardins botaniques, hein, notamment, et des collecteurs de plantes dans le monde entier depuis très longtemps, c'est-à-dire comment faire pour envoyer des plantes vivantes en Europe, hein, principalement. Et donc, ceci donne lieu chez les naturalistes, chez les botanistes, à de longs traités sur comment faire pour que ma plante arrive vivante à destination. Comment emballer les racines, quelle terre lui mettre, combien de fois faut-il l'arroser pendant le voyage, est-ce qu'il lui faut du soleil, de l'ombre, comment éviter le dessèchement ou les moisissures. Bref, c'est quelque chose qui occupe beaucoup les botanistes et, pour ce qui concerne l'Europe, les pépiniéristes privés qui ont, eux, un intérêt pécuniaire direct à ce que les plantes arrivent en bonne forme.
Avant de quitter cette cabane végétale et de reprendre le fil de cette histoire, on va parler un peu de l'if sous lequel nous sommes. L'if commun est ce qu'on appelle un ligneux, à savoir une plante qui contient de la lignine, un des principaux composants du bois, une substance qui donne aux branches et aux troncs des arbres et arbustes leur dureté. Son nom savant est Taxus baccata, et cet arbre est, comme qui dirait, enraciné dans nos coutumes. On lui prêtait un don d'immortalité, ce qui lui vaut d'avoir été largement planté dans les cimetières, d'autant qu'il pousse dans n'importe quelle terre et peut vivre très longtemps. Dans le Calvados, l'un d'eux aurait été planté il y a 1600 ans. On raconte qu'on ferait dans son bois les baguettes magiques. Car l'if est toxique. Selon Pline, son poison est en Arcadie si actif qu'il tue ceux qui dorment ou mangent sous l'arbre. Tout chez lui est poison, à l'exception de l'enveloppe rouge et sucrée qui protège ses graines et qu'on appelle l'arille. Ne vous y trompez pas, la graine elle-même est toxique, et nombreux sont celles et ceux qui s'y sont laissés prendre. Mais la médecine a su tirer profit de ses propriétés. Les feuilles de Taxus baccata entrent en effet dans la composition du taxotère, un médicament utilisé dans les traitements anticancéreux. Cela dit, on n'a pas attendu les laboratoires pharmaceutiques pour se soigner avec les plantes. Les druides l'ont fait, les sorcières aussi, ainsi que les herboristes et les apothicaires. Et la rille, un peu gélatineuse, était notamment utilisé pour adoucir les gorges irritées.